RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les GG en direct de Lyon, les GG au Palais de la Bourse, les grandes gueules en direct jusqu'à midi. Les grandes gueules avec aujourd'hui Barbara Lefebvre, l'enseignante, Emmanuel Debillier, le chef d'entreprise. Et puis nous sommes avec Bruno Poncé, le cheminot, l'homme de Vierzon. Peut-être que certains d'entre vous pour la première fois entendent parler de Vierzon. C'est grâce à Bruno Poncé. Et ce sera la dernière, je pense, évidemment.
Je serai maire de Vierzon.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Il envisage d'être maire.
Ah oui, c'est ça.
Ah bah, puisqu'on parle d'élections municipales, parlons de celle de Lyon, justement. Allez, hop, générique. C'est l'une des élections municipales qui va le plus focaliser l'attention à cause ou grâce à l'un de ses candidats. C'est l'ancien président de l'Olympique Lyonnais, l'homme qui a gagné tant de titres. C'est Jean-Michel Aulas. Alors, si on se fie au sondage, il est le favori aujourd'hui de ce scrutin municipal pour prendre le fauteuil de Grégory Doucet.
Et j'en veux pour preuve ce sondage publié aujourd'hui même par le Figaro. Sondage Figaro, BFM TV, BFM Lyon, mais également, je cite tout le monde, Berger Levrault et Elab, bien entendu, où Jean-Michel Aulas, au premier tour, il y a pas match, hein, il est à 43% au premier tour, 29% pour le maire sortant, monsieur Grégory Doucet, le maire écologiste, et puis ensuite, LFI 10%, et puis très loin, on a les petites listes. Donc à 43% au premier tour, ça veut dire qu'au second tour, il est pour l'instant certain de l'emporter. Est-ce que le match est plié? C'est la question qu'on va poser au 32-16. Et vous posez, Jade Tirlinck, bonsoir.
Bonjour.
Enfin, bonsoir, bonjour.
Bonjour.
BFM Lyon, journaliste et référente politique à BFM Lyon. Ce soir, il y a ce grand débat organisé par BFM Lyon et BFM TV entre tous les candidats. Mais c'est vrai que ce sondage, il est assez éloquent. Pour l'instant, Aulas est le grand favori.
Et il est dans la dynamique des autres sondages qu'on a aussi depuis le début de cette campagne. C'est vrai que Jean-Michel Aulas est toujours donné gagnant, que ce soit au premier et au second tour. Même si on voit quand même que Grégory Doucet parvient à grappiller quelques points au cours de cette campagne, il y a eu une entrée en campagne plus tardive que Jean-Michel Aulas, mais on voit également sur les réseaux sociaux, il prend plus de place, des vidéos là où il ne s'y prêtait pas trop d'abord à cet exercice, et puis aussi peut-être plus d'invectives à l'encontre de Jean-Michel Aulas, essayer de rentrer un petit peu plus, en tout cas dans le débat, dans la compétition, donc il parvient tout de même à grappiller quelques points.
C'est quoi la force de Jean-Michel Aulas? C'est parce que c'est une personnalité incontournable ici à Lyon?
Oui, je pense que c'est évident que sa notoriété joue pour lui très largement, on le voit nous quand on est sur le terrain en tant que journaliste. Quand on rencontre les Lyonnais, les Lyonnaises, tout de suite, les personnes l'alpaguent dans la rue, lui parlent tout de suite de l'Olympique Lyonnais. C'est un monument ici à Lyon, je pense qu'on peut le dire, l'Olympique Lyonnais. Alors forcément, il est connu, reconnu, ce qui n'est pas toujours le cas dans le monde de la politique. On ne connaît pas toujours qui est le maire.
Il transcende un peu les clivages. Alors il est soutenu par, il a réussi à être soutenu par à la fois les macronistes, mais aussi la droite locale.
En effet, c'est une grande union, une grande alliance. Il essaye en tout cas de se détacher un petit peu de l'image qu'a pu donner son alliance avec les Républicains, avec Laurent Wauquiez qui s'est imposé tout de suite avant même que Jean-Michel Aulas annonce sa candidature officielle. Il s'est affiché avec, a apporté son soutien. Il essaye maintenant de grappiller un peu plus au centre, peut-être même un peu à gauche, pour montrer une union encore plus large.
Et quelque chose qui est intéressant, c'est que Jean-Michel Aulas n'a jamais débattu politique. Et donc, je ne sais pas si le débat fera basculer l'élection ce soir. C'est pour ça qu'il sera intéressant de le suivre. Mais c'est la première fois que Jean-Michel Aulas sera confronté à ses adversaires directs.
En plus d'habitude.
Donc, avec des gens qui sont, eux, beaucoup plus rompus à ce genre d'exercice.
Sur le plan politique, c'est sûr. En tout cas, Grégory Doucet a très largement demandé un débat, justement, pour confronter Jean-Michel Aulas dans cet exercice, qui a toujours été refusé. Et là, ce soir, c'est le premier débat concernant ces élections, où, justement, il va y avoir une confrontation entre les quatre candidats.
Emmanuel, c'est un chef d'entreprise, Jean-Michel Aulas, une réussite incontestable. Est-ce que, justement, toi, en tant qu'entrepreneur, tu te reconnais dans ce genre de parcours?
Absolument. Si on élargit le spectre de l'analyse, ce matin, le réceptionniste de notre hôtel m'a dit « La ville de Lyon, elle n'est plus tenue ». Et je ferai une deuxième réflexion que j'avais entendue un jour au restaurant. J'avais entendu « J'en ai marre de voter pour donner un boulot à un mec ou une dame ». Alors, le maire Doucet, il est contre le Tour de France. Plus grave, il a brisé la tradition de la cérémonie des échevins depuis 380 ans en refusant d'aller apporter l'écu d'or dans la basilique de Fourvière. C'est une rupture symbolique majeure. Il n'a pas voulu rendre hommage à Quentin comme il aurait dû le faire en tant que premier magistrat de la ville. J'espère qu'il se fera ramasser ici même dans le débat ce soir en bonne et due forme. Il n'est lyonnais. Il n'est lyonnais. Il n'est lyonnais que depuis 15 ans. Aulas, il est lyonnais depuis toujours.
C'est pas vrai.
Et avant d'être lyonnais...
Tu devrais être son directeur de campagne.
Avant d'être lyonnais, il était à Katmandou. Alors pourquoi n'y retournerait-il pas pour chanter « On est palais subjugué » Douce et France, cher pays de mon enfance, bercé de ton insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur.
Il était à Faune hier.
Je voudrais informer le public que hier soir, Emmanuel était à Faune.
Et on a mieux là, ça va mieux.
Et donc pendant la nuit, nous ne savons pas quel miracle. Es-tu allé prier à Fourvière ?
Invoquer Notre-Dame de Fourvière.
Il a avalé l'écu.
Il a avalé l'écu d'or.
Est-ce que tu as retrouvé la couronne aussi ? Parce que je crois qu'elle a été volée. La couronne. Ah non, c'est. Si, c'est à Fourvière qu'elle a été volée là.
Barbara, ce candidat bien, atypique, Jean-Michel Aulas, qui ne vient pas de la politique, qui a fait tout son parcours avec une réussite dans le privé, qui tout d'un coup, là, à 15 jours, à 3 semaines, un peu moins de 3 semaines du premier tour, est le grand favori.
Écoutez, moi je ne crois pas que avoir fait une carrière dans le privé, ou avoir fait une carrière dans le public, ou être une femme, ou avoir été un banquier, sont des garanties de réussite ou d'échec. On verra bien ce que Jean-Michel Aulas propose pour Lyon. Je ne pense pas que ce soit d'avance un élément qui soit en sa faveur d'avoir été chef d'entreprise.
C'est quelqu'un d'incontournable, une légende, disais-je.
Oui, ça c'est autre chose. Alors c'est une légende, c'est un chef d'entreprise, il faut savoir sur quoi on va s'appuyer pour faire campagne. Mais moi je crois surtout ce qui compte c'est son projet pour Lyon, au regard non seulement du projet de M. Doucet mais de son bilan. Et c'est pour ça que moi je serais très intéressée par le débat de ce soir sur BFM que je vais regarder. Parce que quand je vois, excusez-moi du peu, mais la médiocrité du débat marseillais, où vraiment on avait quatre candidats, mais c'était plus vide les uns que les autres. Et moi, je me suis dit, heureusement que je ne suis pas marseillaise, parce que je ne sais pas pour qui je voterai après ce débat complètement pathétique. Donc j'espère que ce soir, un candidat tirera son épingle du jeu. Après, je ne crois pas, encore une fois, c'est comme quand on nous dit, c'est une femme donc rien. Elle peut être nulle comme les autres. Et c'est un chef d'entreprise, il peut être nul comme les autres. Et c'est un écolo, en général, c'est vrai qu'ils sont nuls pour diriger les municipalités.
Alors que... maintenant, il est bègue.
Vas-y, alors que, mesdames, messieurs, à Vierzon, c'est poncé dès le premier tour.
C'est pas ça.
Alors, Bruno, Jean-Michel Aulas.
Moi, déjà, j'ai une réflexion, c'est comment une ville comme Lyon, qui doit être la deuxième ou troisième ville française, n'a pas un homme politique ou une femme politique d'envergure qui se présente ici. Moi, je suis un peu surpris.
Jean-Michel Aulas.
Excuse-moi, c'est pas un homme politique. Non. Et puis, alors, moi, je vous me rappelle dans Jean-Michel Aulas, et Jade l'a très bien dit, il détestait la contradiction, il était populiste à en mourir. Dès qu'il y avait un problème, c'était la faute de l'arbitre ou alors le terrain qui était mouillé. Donc en fait, moi, Jean-Michel Aulas, la contradiction, soir, il va l'avoir en pleine face et là, on va voir ce qu'il a dans le ventre. Moi, je trouve que c'est quand même dommage que Lyon n'ait pas quelqu'un de dynamique. Et malheureusement, je ne vais pas faire du jeunisme.
C'est le procès, ça. Mais, c'est-à-dire que Monsieur Doucet n'est pas
Doucet
dynamique.
Mais dynamique.
Doucet, je pense qu'il était élu sur un malentendu en 2020 parce que c'était le Covid.
Tout le monde a été élu sur un malentendu.
Comme
à cause du Covid.
Oui, mais Monsieur Aulas.
J'ai pas fini, t'as laissé causer tout à l'heure, Jean-Paul, laisse-moi tranquille. Moi, je te trouve un peu bizarre, vraiment, c'est qu'à Lyon, il n'y ait pas quelqu'un. On a quand même eu à l'époque des maires qui avaient une autre envergure. Moi, je me rappelle, alors Colomb, on n'aime pas, mais c'était quand même un homme politique d'envergure. Il y a eu Michel Noir, il y a eu des gens avant.
Il y a toujours eu des gens plutôt modérés à Lyon.
Oui, mais des gens qui avaient une vraie ouverture politique. Aulas, aujourd'hui, il a eu un club de foot. Quand il est parti, son club de foot s'est bien effondré. Il a failli être en faillite l'année dernière parce qu'il n'avait pas choisi le bon repreneur. Moi, je trouve qu'Aulas, réellement, je ne sais pas lui faire un procès en non-politisme, mais moi, je ne sais pas pourquoi les gens. Aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un. Et puis, moi, j'attends de voir Aulas ce soir avec une vraie contradiction.
Mais je voudrais savoir, politiquement, la ville, elle penche à droite, à gauche. Elle a eu des maires, effectivement, parfois de gauche, parfois de droite, mais qui avaient un point commun qui était plutôt modéré. Gérard Collomb était de la gauche modérée, Raymond Barre était centriste.
Jacques Tirlink.
À Lyon, on peut dire c'est plutôt marqué, en tout cas centre-gauche plutôt. Oui. On peut le voir par rapport aux dernières élections législatives. Lyon, c'est quand même la seule ville où 4 députés sur 4 appartenaient au NFP, qui ont donc été élus. Justement, ça va être une autre leçon aussi peut-être de ces élections municipales. C'est le score notamment du Rassemblement National à Lyon, parce que sur ce mandat, il n'y avait aucun élu, que ce soit à la métropole ou à la ville de Lyon.
Le RN qui ferait 6% hein, selon le sondage Elabe. Hein.
C'est ça, le dernier sondage les donne un peu plus faibles que les précédents.
Donc pas qualifié pour le deuxième tour.
Pas qualifié pour le deuxième tour, on verra s'il y a des élus ou non finalement. Mais...
Donc c'est pas une ville de néo-nazis, parce que je sais pas, j'entendais certains dire « Oui, vous comprenez, Lyon c'est la capitale de l'extrême droite. » Le RN est à 6%.
C'est sûr qu'on a quand même des groupuscules en tout cas d'ultra droite qui sûr. Sont enfin, très présents
ça
à
ne
Lyon.
Dit, ça ne dit pas de ce qu'est Lyon, voilà.
Oui, mais je voulais savoir, parce que souvent quand on fait des sujets justement sur Lyon, sur la violence, on en parlera tout à l'heure de ce qui s'est passé à Bron, sur les trafics de drogue, on sent une vraie colère de la population. Elle est réelle, cette colère. Aujourd'hui, il y a une population qui en a un peu ras-le-bol, les difficultés de circulation, de l'insécurité. Oui,
on sent cette colère des habitants quand on les rencontre. On nous a beaucoup parlé, et Grégory Doucet l'a reconnu lui-même, des travaux qui ont pris beaucoup de place à Lyon sur ce mandat. Il y a des regrets de la part des écologistes de peut-être être allés un petit peu vite. C'est pour ça que ça fait partie des mesures, notamment des écologistes pour la prochaine élection, en tout cas d'avoir quelqu'un qui est dédié à l'explication des travaux pour justement avoir plus de dialogue. Souvent, ce qu'on entend, c'est qu'on ne nous écoute pas assez au cours de ce mandat, ce qui a été reconnu par les écologistes, donc à voir s'ils s'adapteront. Mais oui, c'est sûr qu'il y a une vraie colère, notamment aussi des commerçants qui ont énormément parlé de la circulation. Après, pendant les travaux, beaucoup de colère, mais on a pu constater aussi qu'une fois que les travaux étaient terminés, le discours change un peu et les commerçants s'en satisfont.
Mais le débat ce soir aura une portée nationale parce qu'il intervient après la mort du jeune Quentin Derenck. Donc il y aura bien sûr les questions de lyonnaise, à circulation, etc. Mais enfin, on attend aussi la réaction ce soir des candidats par rapport à ce qui s'est passé à Lyon et puis ce que ça a aussi donné comme conséquence politique.
C'est sûr que la mort de Quentin Derenck a eu un vrai impact. Déjà, ça s'est produit ici, évidemment. Ça dit beaucoup de choses aussi du conflit qui oppose l'ultra-droite et l'ultra-gauche, en tout cas à Lyon. La question, c'est comment vont se passer les alliances au second tour ? Parce que donc on a d'un côté la droite, l'extrême droite qui pointe du doigt très largement la France insoumise qui a donc fait partie du NFP avec les écologistes. La question est, est-ce qu'au second tour, Grégory Doucet s'alliera tout de même avec Anaïs ?
Pour l'instant, la France insoumise est à 10, donc tout juste qualifiée pour le deuxième tour.
Elle pourrait se maintenir, effectivement. Mais la France insoumise l'a toujours dit, en tout cas Anaïs Belloua-Sachérifi qui est la candidate, ils ne veulent pas laisser la ville à Jean-Michel Aulas, qui veut dire donc faire une alliance avec les écologistes, même si selon le sondage qu'on vient de recevoir, il n'y aura pas de victoire de Grégory Doucet, même en cas d'alliance.
Ça ne changerait rien.
Alors, les écologistes sont des marchands de peur, traditionnellement.
Pas forcément.
Et si on fait une analogie avec le monde des courses, quand vous allez aux courses pour parier, il vaut mieux parier sur un winner que sur un canasson. Donc là, c'est Aulas dans la première.
Ah oui, non, vraiment, Emmanuel a choisi son candidat. Barbara, les conséquences de ce que... Je voudrais revenir sur Quentin Derenck, parce que forcément, ça s'est passé ici à Lyon. Il y a eu cette marche très critiquée samedi dans les rues de Lyon. On nous parle effectivement d'une ville qui serait gangrénée par des rixes entre ultra-droite et ultra-gauche. Ça va laisser des traces, forcément.
Oui, ça peut jouer effectivement en faveur d'un candidat qui se présente comme un candidat du centre, de la modération, qui justement tiendrait les deux extrêmes de la fameuse tenaille identitaire à distance. C'est-à-dire que oui, retrouver une espèce d'espace central pacifié qui permettrait de repousser les deux extrêmes.
Ça, c'est peut-être bon pour Aulas, alors.
Oui, de toute façon, ça va plutôt dans le sens de... Et surtout qu'on est à l'échelle locale. On n'est pas du tout à l'échelle nationale. Maintenant, là, les résultats de la délinquance sur le Rhône sont catastrophiques. Le Rhône est passé devant les Bouches-du-Rhône au niveau de la délinquance. Les chiffres du ministère de l'Intérieur pour 2025 sont tombés et ils sont catastrophiques pour le Rhône. Alors, le Rhône, c'est pas Lyon, mais enfin, c'est quand même la métropole de Lyon qui tire toute la délinquance dans les statistiques. Et là, c'est quand même très inquiétant parce qu'on voit que quasiment tous les indicateurs sont à la hausse. Je crois qu'il n'y a que deux ou trois indicateurs à la baisse, mais sinon, tous les autres indicateurs, notamment le vol, les vols avec violence, sont en hausse. Donc, Monsieur Doucet a un bilan, on en reparlera tout à l'heure, le bilan sur la question des pistes cyclables, etc. Ah oui, il y a eu du positif quand même, hein. Il a réalisé une partie de ses promesses. Mais enfin, du côté des violences, du côté de l'insécurité, là, on est sur une explosion, et notamment du trafic de drogue dans la région lyonnaise, avec des règlements de compte, etc. Donc, on voit bien quand même, avec un discours qui a été aussi un discours de légalisation, de la drogue douce, soi-disant douce, je pense qu'effectivement, M. Doucet a essayé d'être sur plusieurs fronts à la fois, et qu'il n'a réussi à vaincre aucun de ses fronts. Donc voilà, je pense que là-dessus, Jean-Michel Aulas peut... trouver effectivement un chemin. Et l'affaire de la mort tragique de Quentin Derenque irait plutôt dans son sens.
Ce soir, par exemple, la candidate LFI, elle va forcément être interrogée sur les liens entre la France Insoumise et la Jeune Garde. Et après ce qu'a dit hier soir Jean-Luc Mélenchon, qui ne veut pas rompre justement ces liens et qui continue à défendre la Jeune Garde et Raphaël Arnaud. Ça va être compliqué pour la candidate LFI parce que là, elle risque d'être être au cœur des critiques.
Effectivement, nous l'avons reçu justement sur BFM Lyon pour en parler. Et elle nous l'expliquait justement. Elle disait que la Jeune Garde n'avait pas de lien direct, en tout cas avec la France Insoumise. Elle maintient ce discours. À voir après comment, évidemment, elle se défendra ce soir. Mais c'est sûr que ça fera partie du débat et, je pense, et des attaques de ses adversaires.
Voilà, c'est surtout ça qu'on va voir. C'est quel est le niveau de l'attaque, notamment de Jean-Michel Aulas. Parce que Jean-Michel Aulas, j'espère qu'il est capable de ne pas seulement réciter des fiches. Parce que, franchement, parfois, on voit des candidats, c'est de la récitation de fiches. Et c'est pas ça un débat. Un débat, c'est être capable.
Un débat municipal, il faut bien connaître les dossiers du.
Il faut connaître ces dossiers, mais il faut être capable aussi d'aller interroger ses adversaires, de les mettre en difficulté, de soi-même avoir du répondant. Et je trouve que vraiment, certains sont dans des espèces de carcans de communication qui ne sont pas positifs pour le débat.
Une question qui peut être un tabou, est-ce que l'âge de Jean-Michel Aulas, ça a été une question ici ou pas? Je rappelle qu'il a 79 ans, je crois.
Ah oui, quand même.
Effectivement, ça revient très régulièrement quand même auprès des Lyonnais qu'on rencontre, avec qui on discute. L'âge revient de manière récurrente, en s'inquiétant de tout simplement de l'âge qu'il a. Lui s'en défend et il se dit en pleine forme. 76 ans.
76 ans.
Il se dit en pleine forme et prêt à endosser ce rôle. Mais après, quand on lui pose la question en cas de défaite, on a pu lui demander ce qu'il ferait. Il dit qu'il retrouverait beaucoup de liberté s'il perdait et qu'il n'intégrerait pas l'opposition.
Le débat, c'est ce soir, BFM TV, BFM Lyon.
20h50,
à suivre en direct. Mais justement, puisqu'on parle de Jean-Michel Aulas et de sa réussite en tant que chef d'entreprise, est-ce que voter pour un chef d'entreprise, ça peut être motivant? Est-ce qu'aujourd'hui, il faut tourner la page des responsables politiques pour aller plutôt vers des chefs d'entreprise, aujourd'hui à la tête du pays, à la tête des villes? 32-16 pour venir en discuter avec les grandes gueules. Merci à Jade Erling, journaliste et référente politique à BFM Lyon, d'avoir été avec nous.
Merci.
Et notre discussion revient dans un instant avec les Lyonnais ici au Palais de la Bourse.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
Et on a la lumière qui rentre ici au Palais de la Bourse, en direct de Lyon, puisque les grandes gueules sont à Lyon pour le grand débat sur les municipales ce soir, en direct sur BFM TV et BFM Lyon, à partir de 20h50. Alors, je ne sais pas si c'est la lumière divine qu'invoquait il y a quelques minutes l'ami Emmanuel De Villiers qui est avec nous. Nous sommes peut-être les GG touchés par la grâce.
Par Notre-Dame de Fourbière.
Emmanuel De Villiers est avec nous, Barbara Lefebvre et puis Bruno Poncet. N'oubliez pas les vacances, les séjours Bel en Bras à gagner toute la semaine avec les grandes gueules. Séjour Bel en Bras d'une valeur de 2000 euros dans les 45 clubs Bel en Bras. C'est du premium tout compris. C'est pour vous. Il suffit juste d'envoyer vacances par SMS au 732-16. Vacances par SMS au 732-16. Après, c'est simple comme un tirage au sort. Et le gagnant ou la gagnante passe en direct dans les GG à 11h20. Parlons maintenant toujours politique et entreprise. Les deux font-ils bon ménage? L'avenir de la politique appartient-elle aux chefs d'entreprise? C'est la question qu'on va se poser. C'est lié à Jean-Michel Aulas, qui est le favori ici des sondages pour les prochaines élections municipales, c'est 15 et 22 mars. Est-ce que finalement, aujourd'hui, les Français ne sont pas en train de tourner une page et de dire ben, si les politiques ont échoué, il vaut mieux se tourner vers les chefs d'entreprise?
Alors, c'est peut-être vrai à Lyon, et on verra dans trois semaines si les Lyonnais font confiance à Jean-Michel Aulas, qui effectivement n'a jamais fait de politique et se présente comme un entrepreneur, une réussite, etc. Après, je regardais le casting annoncé de la prochaine présidentielle. Alors, on n'a pas tous les candidats, mais enfin, ceux qui ont envie d'y aller, ce sont quand même des professionnels de la politique qui font ça depuis quasiment tout le temps, aussi bien Marine Le Pen, Jordan Bardella, candidat, Jean-Luc Mélenchon, mais aussi Édouard Philippe, Gérald Darmanin, Bruno Retailleau, etc. Donc on ne voit pas beaucoup aujourd'hui de chefs d'entreprise. À un moment donné, vous vous souvenez, on se disait, mais pourquoi pas un animateur télé ou pourrait venir déjouer les pronostics. Il y a, dans les années 80, Bernard Tapie qui a tenté sa chance. Il a toujours dit, d'ailleurs, ça avait été son erreur fatale de faire de la politique, parce que quand il a commencé à faire de la politique, il a eu ses ennuis judiciaires. C'est en tout cas la légende qui voulait peut-être raconter, mais enfin, en tout cas, c'est ce qu'il disait. Donc, est-ce qu'il y a vraiment de la place pour un chef d'entreprise? Est-ce que vous aimeriez qu'il y ait des gens qui viennent de l'entreprise, qui s'investissent en politique, qui deviennent ensuite ministres, élus, etc.
Il y a un exemple, c'était celui de Jean-Louis Borloo, qui était avocat, qui a été maire de Valenciennes, qui a été ministre.
Mais les exemples se comptent sur le
dos. C'est vrai, ils sont assez rares. Alors, un chef d'entreprise à la tête d'une ville, à la tête de l'État, 32-16 pour en parler avec les GG, Emmanuel De Villiers.
Oui. Alors, moi, je ne connais pas du tout M. Aulas, donc ma parole est totalement libre.
Oui, mais tu l'aimes bien. Pour quelqu'un que tu ne connais pas, tu l'aimes bien.
Les Lyonnais choisiront en toute liberté de vote, mais je vais faire quelques remarques. M. Aulas a travaillé toute sa vie. Il a très très bien réussi. Il est riche. Nul ne peut le contester.
Donc il ne va pas s'enrichir par la politique.
Donc c'est une bonne chose, parce que quelqu'un qui est riche, il va moins quand même, logiquement, à son âge en plus, avoir tendance à monter des magouilles que quelqu'un qui n'a pas un copec, oui. et qui voit tout cet argent alors qu'il n'a pas un rond. Ensuite, il pourrait, avec sa fortune, être tranquillement dans une archipel des Bahamas avec une pina colada dans chaque main, allongé. Il veut encore se battre pour sa ville. Moi, je dis bravo.
Voilà.
Barbara.
Non,
La démago.
La naïveté d'Emmanuel m'étonne quand même. On le sait, d'abord, parfois, l'argent appelle l'argent. Il y a des gens, on pourrait s'imaginer qu'ils en ont tellement, on se demande pourquoi ils courent encore derrière. Ils continuent à courir derrière. Et une fois d'ailleurs qu'ils en ont beaucoup, ils courent derrière le pouvoir. Parce que une fois qu'on a l'argent, eh bien, on se dit, bah, maintenant, il me faut le pouvoir. Donc, je crois pas que ce soit une garantie de probité que de se dire, voilà, on a un élu ou un édile de la ville qui a suffisamment d'argent à titre personnel pour avoir envie de s'enrichir sur la ville. Je crois qu'il y a beaucoup de maires dans ce pays, et on a 36 000 communes, il y a beaucoup de maires qui sont maires pour des causes complètement désintéressées et au service de leur ville. Moi, je n'ai pas d'avis personnel sur Jean-Michel Aulas.
Mais plus généralement, sur l'idée d'avoir un chef d'entreprise.
Non, mais justement, ça m'intéresse parce que Jade a dit quelque chose que je trouve très intéressant, et c'est une interview récente là, de BFM Lyon. Il dit, Jean-Michel Aulas, si je ne gagne pas l'élection de Lyon, j'arrête et je ne serai même pas dans l'opposition. Alors moi,
Ça te choque, ça.
Si j'étais lyonnais, oui, ça me choque, parce que si tu te présentes avec un projet ambitieux pour ta ville, que tu n'es pas élu, bah, au moins tu restes dans l'opposition pour essayer de conduire ton équipe, pour essayer de continuer à te battre pour ta ville, puisque quand même, si on se présente.
Mais c'est pas quelqu'un qui veut être
c'est
second,
l'intérêt
c'est
général.
Quelqu'un qui veut être premier ou rien.
Ah oui, mais moi, j'aime pas cette mentalité, c'est ou le pouvoir ou rien. Non, mais je suis désolée, si tu t'engages pour ta ville, c'est que t'as un projet, c'est que c'est l'intérêt général et que tu continueras aussi dans l'opposition à te battre. Là, c'est vraiment.
Tu cherches la petite bête.
Non, je cherche pas la petite bête. C'est comme si tu reprends une entreprise et puis à la première difficulté, bah tu la lâches, puis tu lâches les salariés avec.
L'opposition, ça veut dire que t'as perdu, mais tu restes là parce qu'on sait jamais le coup d'après. Le coup d'après, ça sera toi.
Non, mais
moi, je trouve que c'est
si
plutôt un état d'esprit d'entrepreneur, c'est-à-dire soit je gagne, soit je m'en vais.
Ah bah non, moi justement la politique c'est pas comme l'entreprise. Alors je suis désolée.
Ah bah, c'est pour
la
ça qu'on a
c'est l'intérêt
qu'on a
général.
C'est pour ça qu'on est dit qu'il se présente 4 ou 5 fois, voilà, c'est ça.
Bah, non, mais moi je ne fais pas de parallèle justement entre une vision entrepreneuriale et gérer une ville qui est le sens de l'intérêt général.
Mais Barbara, tu sais très bien que en politique, on a toujours les mêmes. Pourquoi? Parce que même perdant, ils s'accrochent, ils se disent peut-être un jour je vais réussir à revenir. Quand t'entends aujourd'hui un François Hollande qui est en train de se mettre en position de marche pour l'Élysée. Et on est en train de dire Emmanuel Macron pourrait revenir en 2032. Peut-être que c'est ça que les Français ne veulent
plus. Je suis désolée, si Jean-Michel Aulas a un projet pour la ville de Lyon, il a un projet qui n'est pas que celui de Jean-Michel Aulas. J'espère que c'est un projet, le projet d'une équipe. Donc après, il peut rester dans l'opposition avec son équipe et faire monter quelqu'un pour le coup d'après. Mais je trouve que de dire c'est maintenant ou rien et sinon je m'en vais, moi je trouve pas ça très respectueux pour la ville de Lyon.
Aujourd'hui, le meilleur exemple finalement de chef d'entreprise qui a gagné, c'est Donald Trump.
Oui.
Donald Trump, c'est un chef d'entreprise qui d'un coup est entré en politique, qui a tout bouleversé, parce qu'il n'est même pas passé par le poste de sénateur ou de gouverneur d'un État. Il est arrivé, il a tout bouleversé. Il a dit, moi, je veux gagner. Il a mis les moyens pour gagner. Et puis, il est devenu président, 45e président des États-Unis. Et puis, maintenant, 47e.
Excuse-moi, Obama était avocat. Il n'était pas non plus...
Il n'était pas gouverneur. Il avait été sénateur.
Il connaissait
le fonctionnement du pays.
Pour répondre à Olivier Trichot, il y a un triptyque discriminant à la faveur d'un chef d'entreprise. Un chef d'entreprise, il sait décider, il sait gérer et il sait manager. C'est trois choses qu'il n'y a pas à la mairie de Lyon actuellement.
Ouais, bah, De Gaulle n'était pas chef d'entreprise et il a su diriger la France.
Hein. Mais il était militaire, il n'était pas politique.
Ah bah là, voilà. Personnellement, j'aurais plus confiance dans un militaire que dans un chef d'entreprise.
Oui, mais tu cites un exemple justement qui va plutôt dans notre sens. C'est-à-dire que peut-être qu'il y en a un peu ras-le-bol des professionnels de la politique qui font ça toute leur vie.
Les militaires ne sont pas des professionnels de la politique.
Et donc, le général De Gaulle n'était pas un professionnel politique, justement. Et il y a été parce que soit il gagnait, soit il s'en allait. D'ailleurs, il a eu une traversée du désert parce qu'il ne voulait pas s'accrocher. Enfin, c'est peut-être ça, on a besoin de ça et pas des gens qui s'accrochent au pouvoir à tout
prix. Bruno, puis ensuite, on va au 32-16.
Bah, l'exemple d'Alain est quand même criant parce que ça contredit exactement ce qu'a dit Emmanuel, c'est-à-dire que Trump, en un an, il a fait plus 1,4 milliard. Ça veut dire qu'il est quand même venu au pouvoir aussi pour s'enrichir. Donc ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, t'as plus de politiciens vierges.
1,4 milliard de quoi ?
Ben, il s'est fait 1,4 milliard, sa fortune a augmenté d'1,4 milliard.
Ah, t'es au courant ?
Tout le monde au courant. Il faut juste que tu lises.
Oui, ça, c'est vrai qu'il fait profiter sa famille aussi.
Ah, voilà.
Oui, mais c'est l'Amérique, ça n'a rien à voir.
Oui, non, c'est bien
Obama,
sûr,
il n'a pas fait profiter sa famille. Biden surtout.
En fait, il y a un sujet, c'est que dans les années 50-60, souvent le maire de la ville moyenne, c'était souvent le chef d'entreprise qui avait l'entreprise de la ville. On peut penser à Peugeot, on peut penser à d'autres entreprises. Et donc après, il était maire, donc il était bienfaiteur de la ville. C'est-à-dire qu'il employait les gens, il était sponsor du club de foot du week-end, et en même temps, il était maire. Et ça, c'était un truc qu'on a connu pendant des années. À un moment donné, les entreprises m'ont vraiment fermé. Et après, on est parti après sur des hommes politiques qui ne font que ça.
Oui, c'est bon, en fait,
à un moment donné, je pense qu'il y a quelques années, les hommes politiques avaient un métier à côté. Aujourd'hui, les gens sont incapables de citer le métier de la plupart des hommes politiques.
Mais ils n'en ont pas.
Ben bien sûr, parce qu'ils sortent tous de l'ENA. Après, ils ont tous fait des trucs. Alors,
ou alors
comme
c'est
Macron, lui, il a été sponsorisé dans une banque. Et puis après, il arrive au pouvoir et nous dit, moi, je suis banquier, je saurais gérer. On voit bien que c'est pas le cas. Et c'est quelqu'un qui a creusé des déficits.
Il était même pas banquier. En plus.
Et donc moi, je sais pas si Ola c'est une bonne idée. On verra. On verra parce que en fait, comme a dit Barbara, il vient qu'un projet. Moi, j'ai vu qu'un de ses projets était peut-être de faire une espèce de rocade, de refaire une espèce de périphérique autour de Lyon. Avec quels moyens ? Parce qu'à un moment donné, il faut des moyens. La plupart des villes françaises aujourd'hui sont endettées avec les impôts toxiques pendant des années.
Il est lyonnais.
Je t'ai laissé parler.
Il est lyonnais depuis 1947. Il a eu le temps d'étudier le dossier.
Oui, mais moi, je ne sais pas si aujourd'hui les gens ont envie d'une politique politicienne encore une fois, ou d'hommes qui arriveraient, qui seraient peut-être vierges de toute politique, mais qui en fait ne seraient encore là que des gestionnaires et qui ne penseraient qu'à faire profiter les gens qui leur ressemblent. Moi, c'est ça que j'ai un problème avec la politique aujourd'hui, c'est que les gens ne pensent qu'à ceux qui leur ressemblent. Pour moi, la politique, c'est t'arrives avec tes idées, t'as un projet, mais à la fin, ton projet doit s'appliquer à tout le monde et pas uniquement les gens qui t'ont élu.
Ça n'existe pas beaucoup, ça.
Bah, voilà. Alors, je voudrais qu'on aille voir.
Ça fait des années qu'on voit le contraire.
Paul, qui est avec nous, qui est dans les Pyrénées-Atlantiques, est juriste, il est consultant. Bonjour, Paul. Bienvenue au 32-16. Bienvenue dans les GG. Paul,
Pyrénées-Atlantiques.
Bonjour. Bienvenue, Paul. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'avenir de la politique, finalement, ce sont les chefs d'entreprise ou pas ? Dites-moi.
Alors, j'ai apprécié la référence au général de Gaulle. Déjà, moi, pour l'avenir de la politique, je pense qu'il faut se référer effectivement à ce qu'a dit de Gaulle. Il faut arrêter la politique des boules puantes. Aujourd'hui, nous sommes surtout sur une politique de parti qui, moi, à chaque fois que je vois des politiques intervenir, j'ai toujours en mémoire ce magnifique film d'Henri Verneuil du roman de Simenon, qui est le président. Et au final, je vois que 60 ans plus tard, tout ce qui est marqué dans ce film et dans ce livre sont d'actualité. Il faut effectivement revenir à l'essence même de la politique, c'est avant tout le bien commun et le bien des contribuables, de nos concitoyens. Je pense qu'avant tout, le profil type d'un candidat, c'est avant tout les personnes qui l'entourent. C'est aussi sa personne, son projet et les personnes qui entourent. Je vais vous donner l'exemple sur Pau. Là, pour le coup, effectivement, François Bayrou se représente sur un troisième mandat. Mais néanmoins, dans les listes qui sont en face de lui, il y a quand même des listes qui peuvent être intéressantes parce que ce sont avant tout des personnes issues du monde entrepreneurial. Mais et qui s'entoure de personnes de divers secteurs, de divers domaines, donc qui font porter un projet commun. Je pense qu'aujourd'hui, en ce qui concerne Lyon, la ville de Lyon, ce qui me gêne pour Jean-Michel Aulas, c'est que sa réflexion, et comme Barbara le disait, le fait que s'il perdait, il ne resterait pas. Je pense que c'est une mauvaise chose, parce que Jean-Michel Aulas, tout le monde le sait, est président a été président de l'OL de 87 à 2023. Enfin, c'est quand même un sacré projet, une sacrée expérience. Même s'il venait à perdre, je pense qu'il est crucial pour lui de rester quand même dans l'opposition, parce qu'il a quand même des équipes. Il a quand même une équipe qui l'accompagne, qui est avec lui, qui est sur ce projet-là. Qu'est-ce va-t-il donner comme image ? Je perds, je plaque tout, je m'en vais. Non, c'est pas une bonne idée. Il a été chef d'entreprise, il était manager, il a quand même suivi toutes ses équipes.
Justement, quand on perd, on s'en va.
Ben non.
Ah bon ?
Non, c'est un projet avec une équipe.
Attendez,
laissez finir. T'es dans l'opposition. Ah ben non, alors.
Allez-y, Paul, finissez votre.
On est dissous de l'opposition dans ce cas à chaque fois.
Non, mais alors, ce qui est très important,
ces colissiers vont rester.
Le cas de Jean-Michel Aulas est particulier parce que c'est un chef d'entreprise qui a une grande expérience. Je pense que pour lui, s'il venait à perdre, ce serait de rester justement pour former à son expérience, à ses projets, à ses réflexions, les personnes qui l'entourent, et porter son projet vers l'avenir. La politique, ce n'est pas seulement vouloir ses envies personnelles, c'est avant tout un projet toujours tourné vers l'avenir. On est toujours exactement vers l'avenir. Une campagne, quand un candidat fait une campagne, que ce soit pour une présidentielle, une municipale, une législative. Oui, le programme, il porte bien sur les 5 à venir.
Oui. Non, mais j'ai bien compris, mais Paul, on a dit qu'il avait 76 ans. S'il restait dans l'opposition, ça serait pour le coup d'après. Rendez-vous dans 6 ans, et dans 6 ans, je gagnerais. Je pense qu'il ne dit pas, il ne se projette pas, parce qu'il a 76 ans.
Mais c'est pas
ans.
Ça, c'est donc servir c'est les Lyonnais pendant 6 ans dans l'opposition.
Je pense enfin, que Aulas, il se dit, c'est pour moi, c'est maintenant ou jamais, en fait.
Non, mais, merci, non, mais, Paul, d'avoir été avec nous.
Non, qu'est-ce que tu montres? Non, mais je trouve ça fou parce que il participera de la construction de l'opposition en tant que chef de l'opposition,
c'est suivant de liste.
Moi, je trouve que c'est très méprisant pour les électeurs.
De toute façon, c'est pas méprisant, au contraire, je trouve que c'est honnête de le dire avant l'élection.
On a posé la question, je remercie Paul d'avoir été dans les GG, on a posé la question, est-ce qu'aujourd'hui, c'est un chef d'entreprise qui peut prendre la suite aujourd'hui du responsable politique? Est-ce que un responsable politique à la tête d'une ville, ça vous fait rêver? Vous dites oui à quasiment 60%. Justement, continuons de parler des villes, et puisque on est à Lyon, on va regarder plus globalement le trio de tête des villes les plus embouteillées. On a Paris, on a Bordeaux et on a Lyon. Et c'est même Lyon qui est devenu numéro un des villes embouteillées. Alors,
la capitale des bouchons, mais pas seulement des restos, quoi.
Aujourd'hui, pour la voiture en ville, on dit stop, elle n'a plus sa place, ou au contraire, on dit bah non, il faut continuer parce que la bagnole, ça reste quand même le moyen de transport numéro un. Venez en discuter avec les grandes gueules au 32-16. Restez avec nous en direct de Lyon, il est 11h20.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules. 1, 2, 3, 4.
Les GG toujours à Lyon. Les grandes gueules en direct du Palais de la Bourse, ce magnifique Palais de la Bourse ici, en direct et en public, avec les Lyonnais, avec aujourd'hui Bruno Poncet, Emmanuel Devilliers, Barbara Lefebvre. On va parler de la circulation. Quand on regarde les priorités des Français là aux élections municipales, en tout cas, en ce qui concerne les grandes villes, on voit que le numéro un, c'est la sécurité. Et ensuite, c'est la mobilité, ce qu'on appelle aujourd'hui la mobilité, c'est-à-dire les moyens de transport et en particulier la place de la voiture. Et dans le trio des villes les plus embouteillées, on avait Paris, on avait Bordeaux, Lyon. Et si maintenant on remet tout dans l'ordre, eh ben c'est Lyon qui est arrivé en tête des villes les plus embouteillées. Du coup, question, est-ce qu'on vote aussi pour la circulation? Est-ce qu'on vote pour ou contre la voiture?
Oui, c'est vrai. Alors, c'est l'index 2026. TomTom qui place désormais Lyon comme étant la capitale française des embouteillages. Amis lyonnais, vous avez perdu 5 jours de votre vie dans les embouteillages en 2025. C'est ce que dit cette étude. Alors c'est devant Bordeaux, devant Montpellier et devant Paris. La capitale de la gastronomie est aussi la capitale du temps perdu dans les embouteillages. Alors le maire de Lyon écologiste, il est plutôt dans l'idée, comme d'ailleurs la maire de Paris ou le maire de Marseille, Marseille ou le maire de Bordeaux, c'est de limiter la circulation automobile, d'offrir d'autres moyens de transport, le tramway, le vélo, le métro. Le problème, c'est qu'il y a encore beaucoup de Lyonnais qui se déplacent en voiture, notamment ceux qui habitent autour de Lyon, dans l'agglomération, et ça crée des embouteillages. Alors, est-ce qu'il faut continuer à bouter hors de nos villes les voitures, ou au contraire, peut-être arriver à une meilleure cohabitation et régler ce problème d'embouteillage,
parce
que c'est quand même du temps perdu.
Le problème d'un mandat de maire, c'est que c'est 6 ans, et je pense que les bienfaits d'une politique de retrait de la voiture et d'harmonisation du centre-ville avec les moyens de transport plus écologistes, ben en fait, ça va prendre 10, 15, 20 ans.
Et ouais, à Paris, ça fait 25 ans.
Ouais, mais je pense que malheureusement, il faut encore attendre 5, 10 ans pour que ça marche. Et en fait, parce que les gens en ont marre. Alors, les gens du centre-ville en ont marre de voir trop de voitures, et à Paris, on le voit tous les jours. Par contre, ben, ceux qui viennent travailler dans la ville, ben, ils ont besoin à un moment donné de venir avec leurs moyens. Et nous, à Paris, on a des moyens de transport. Je pense que à Lyon, ils en ont aussi. Mais sauf qu'à un moment donné, tu te retrouves dans face à deux mondes où tu as besoin de ta voiture pour aller au boulot, mais en fait, tu n'as plus accès au centre-ville. Et puis, tu n'as plus accès au centre-ville parce que ça coûte trop cher pour y habiter. Donc, tu es obligé d'habiter à 15, 20 bornes. En fait, tu arrives avec deux mondes irréconciliables où celui qui produit dans ta ville, il vient de loin. Et celui qui habite, il ne veut surtout pas que tu viennes chez lui, l'emmerder avec tes bagnoles. En fait, tu es dans un truc où ça ne va pas se régler comme ça. Et malheureusement, je pense peut-être qu'un jour, la politique de Doucet, les gens se diront, mais c'est quand même pas mal de moins avoir de voiture dans le centre-ville, d'avoir plus de pistes cyclables, d'avoir plus de transports, des tramways. Aujourd'hui, on voit un essor des tramways dans toutes les grandes villes françaises. Moi, j'étais à Bordeaux il n'y a pas longtemps. Le tramway est vraiment bien, ça quadrille bien la ville. Effectivement, alors, comme il y a encore.
Je peux te dire que les taxis bordelais, eux aussi, quand tu les vois, ils se plaignent de la circulation.
C'est plus possible
de rouler
en Bordeaux. Parce que là, aujourd'hui, ils sont en train d'attaquer les travaux sur les bords de la Garonne.
C'est ça, c'est les travaux. Parce qu'à Lyon, ce que j'ai bien compris, c'est que les travaux, il y a eu beaucoup de travaux en même temps, interminables. En plus, il y a eu le Covid, donc ça ralentit tout. Et d'ailleurs, Jean-Michel Aulas, s'il s'engage aussi en politique, c'est en grande partie à cause des embouteillages. Il l'avait dit. Hein.
Dans sa campagne, Grégory Doucet avait annoncé 250 km de pistes cyclables. Il en a réalisé 170. Donc on voit qu'il a quand même été en grande partie au bout de son projet. Il y a eu 200 millions qui ont été investis. Qu'est-ce qu'on a observé ? Une baisse de presque 12% du trafic automobile et une augmentation de presque 60% de la circulation à vélo et trottinette. Donc, de ce point de vue, Grégory Doucet a été cohérent avec son projet. Il l'avait mis dans son projet, il a été élu. Moi, je suis désolée, il a réalisé une partie de ce qu'il avait, promis. Est-ce que ça plaît aux Lyonnais ? J'en sais rien. Mais en tout cas, il a aussi augmenté l'étendue du tram. Et moi, je pense qu'effectivement, le tram, ça ne peut être que positif pour les villes. Maintenant, on parle beaucoup des conflits d'usage en milieu rural. Il y a aussi des conflits d'usage en milieu urbain. Et c'est ce qu'évoquait Bruno. Il faut, à un moment donné, en ville, on ne peut pas satisfaire toutes les demandes. On veut un air un peu plus pur. Donc, excusez-moi, ça veut dire un peu moins de voitures. Oui, mais il faut quand même qu'il y ait des voitures. Oui, mais en même temps, on voudrait pouvoir des mobilités douces comme le vélo. Oui, mais en même temps, on veut la voiture. Donc, il faut que chacun aussi soit un peu plus mature dans ses attentes et dans la façon dont on gère les conflits d'usage. Et c'est ça aussi le rôle des politiques et des édiles locaux.
Bah c'est-à-dire qu'il faut
essayer de faire en sorte. Voilà, il faut une coexistence. Maintenant, moi, je suis désolée, hein, mais aujourd'hui, c'est la politique quelque part du fait accompli. Je ne vois pas comment, dans des villes où il y a eu des travaux très importants d'aménagement urbain, avec des pistes cyclables, avec des espaces végétalisés, etc. C'est pas parce que demain un maire soi-disant de droite, soi-disant donc qui serait moins écolo, ce qui ne veut rien dire d'ailleurs, va venir et va tout casser.
Il fera peut-être moins de travaux parce que ce qu'on reproche, c'est des travaux non plus finir, qui en plus sont pas très bien menés.
Ah mais ça d'accord.
Il y a pas de délai, les chantiers sont
interminables. À mon avis, à Paris. Oui mais ça.
Mais à Lyon, je peux te dire que
dans toutes les grandes villes,
n'importe quel Lyonnais va te le dire.
Les délais qui sont pas respectés, ça c'est peut-être les entreprises qui ont été choisies par les maires.
Non, c'est parce que en fait tu lances plein de chantiers en même temps
oui.
et c'est pas
normal.
Gérable.
Sur un mandat de 6 ans, ils veulent en faire le plus possible. Donc je pense
que. Mais faut pas oublier les habitants.
En tout cas, il y a une situation de mobilité qui est lancée aujourd'hui, et ces mobilités-là qui sont effectivement l'objectif de repousser le plus la voiture hors des centres-villes, ce qui se fait dans toutes les grandes villes d'Europe, c'est quelque part, et ça peut ne pas plaire à ceux qui vivent dans les centres-villes, mais c'est quelque part le sens de l'histoire.
En général, ça plaît pas à ceux qui vivent aux abords des centres-villes, pas dans les centres-villes. Centre-ville, si tu es à pied, si tout est à côté.
Oui, aux abords des centres-villes, mais des fois aussi dans les centres-villes, parce que ça crée des embouteillages aussi qui dérangent les gens des centres-villes.
Emmanuel, et puis ensuite on va du côté de La Rochelle, écoutez Nicolas.
Je pense que c'est une démarche de professionnels, que les maires agissent un petit peu au coup par coup, et ils ne sont pas professionnels du diagnostic. Il faudrait étudier ça très à fond, ville par ville. Moi, je peux citer deux exemples, tu parles de l'Europe. Bucarest, par exemple, c'est une catastrophe en fin d'après-midi. C'est complètement embouteillé avec des vapeurs, c'est irrespirable sur les trottoirs. Un contre-exemple très bon, mais ça, M. Doucet, lui, il a la science infuse, donc il n'a pas l'intention de l'étudier. C'est Madrid, parce que Madrid, il n'y a pas de pollution et on circule très bien.
Alors oui, mais le centre-ville de Madrid,
lui qui est pour la voiture électrique, il n'est même pas capable de mettre ça en correspondant.
Attends. Madrid, le centre-ville de Madrid, c'est essentiellement piéton. C'est piéton.
Moi j'ai encore été l'année dernière, t'es mignon.
Bah oui, c'est comme Rome. Non.
C'est pas piéton, il y a la
Rome
vieille ville,
Madrid,
tout le reste, on circule très très bien à toute heure du jour, même en période chargée. Mais ça s'étudie par des professionnels, mais pas des cabinets copains à qui on donne des commandes, etc.
Vous n'avez pas parlé d'une chose, c'est les conséquences, parfois sur le commerce. En général, les centres-villes totalement piétons, les commerces s'en plaignent. Voilà. Par exemple, à Paris, si le BHV a eu des soucis, c'est pas à cause de Chine, c'est parce que le BHV était vide de gens qui ne pouvaient plus se rendre au BHV parce qu'il n'est plus possible, il n'est plus question d'aller en voiture. Donc, à un moment donné, il faut aussi réfléchir à ça. C'est-à-dire que la ville, c'est bien aussi pour les touristes, je suis d'accord, mais il y a des gens qui habitent, il y a des gens qui font du commerce, qui travaillent. Il faut penser à ces gens-là aussi.
On va en parler avec Nicolas, qui est du côté de la Charente-Maritime, précisément à La Rochelle. La Rochelle, qui a été une ville pionnière dès les années 70.
Pour le vélo.
En enlevant la voiture, c'était Michel Crépeau qui a installé le vélo. Bonjour Nicolas.
Bonjour les GG.
Bienvenue. Est-ce qu'aujourd'hui la voiture a encore de l'avenir dans les grandes villes, Nicolas, selon vous?
Dans les centres-villes, de l'avenir, oui. Il va falloir que certains se déplacent, notamment les artisans. Après, pour le reste des gens, je pense que il y a des mobilités douces qui existent et on le voit surtout moi je le vois beaucoup à La Rochelle ou à Bordeaux, finalement on se déplace plus facilement en vélo qu'en voiture.
Tout le monde ne peut pas être en vélo. Je pense aux personnes âgées. C'est bien parce que dans un pays qui vieillit avec des gens qui seront de plus en plus en mobilité réduite, on nous explique qu'on va tous faire du vélo.
Attendez, laissez parler Nicolas.
Les vélos cargo alors.
Je vois à La Rochelle, il y a des navettes justement pour les personnes qui ont pas besoin de, enfin qui ont des difficultés à se déplacer, des navettes, ils sont en train de mettre au point des navettes autonomes, etc. Mais moi, quand j'ai envoyé mon message au 32-16, c'était aussi toutes ces villes qu'on dit embouteillées. Dans la comptabilité de ces embouteillages, il y a souvent les rocades. Moi, je vais parler d'une rocade que je connais bien, qui est la rocade bordelaise. Quand vous arrivez le matin, entre 8h et 10h, il y a 3 voies de circulation, il y a 2 voies de circulation où vous n'avez que des poids lourds. Ce sont des poids lourds qui traversent la France de nord au sud. Si déjà, je pense que, et Lyon, je pense qu'ils ont exactement le même souci, c'est-à-dire que leur rocade est saturée de poids lourds qui traversent la France. Si déjà on mettait tous ces poids lourds en ferroutage, mais bon, ça plaira pas.
Ça
plaira pas.
Ça, on est bien d'accord.
Non, c'est pas pour livrer, ce sont des poids lourds qui chargent à Rotterdam ou à Amsterdam et qui descendent aussi.
Oui, exactement, qui traversent la France.
Ils ne font que traverser la France. Et ceux qui traversent la France, si déjà ceux-là, on les mettait sur des trains à Lille et qu'on les descendait à Hendaye ou à Perpignan pour ceux qui veulent aller en Espagne, voire je sais pas où pour aller en Italie, mais tous ces poids lourds-là, si déjà on les enlevait de nos rocades, je vous garantis que ça fluidifierait beaucoup le trafic autour des villes et sur les rocades. Mais bon, effectivement, il faut des politiques.
Il n'y a pas de politique de faire routage dans ce pays. Ben oui,
La dernière qui a voulu, c'était. C'était des cotaques. C'est des cotaques, c'était.
Vous mettez du ferroutage, je pense que Vinci et compagnie vont pas être d'accord parce que tous ces camions, c'est du manque à gagner sur les autoroutes.
Bien sûr. Sur les autoroutes.
Et puis bon, on va pas crier au complotisme.
Et puis il faut être sûr, si vous voulez,
entre politique et Vinci et compagnie, il y a des petits accords entre amis. Ils vont pas le faire.
Et puis Nicolas, vous dites que ce sont essentiellement aussi des camions qui traversent, qui font du cabotage, mais il y a aussi aujourd'hui dans la France des grandes surfaces et des livraisons, des camions qui font la navette tout le temps pour livrer en temps et en heure aussi aujourd'hui. Ça, c'est un énorme business que celui des livraisons immédiates dans la journée. Et ça, c'est une réalité. Nicolas, je vous remercie d'avoir été avec nous. On a posé la question, stop ou encore la voiture dans les villes, stop ou encore la bagnole. Eh bien, c'est quand même, les Français tiennent à leur voiture, c'est la voiture qui est toujours plébiscitée, encore à 74%. Troisième heure des GG dans un instant, restez avec nous. Et on va revenir sur ce qui s'est passé pas très loin de Lyon d'ailleurs, à Bron, avec ce jeune de 15 ans qui a été poignardé près de son lycée. Et cette violence que l'on pense finalement inarrêtable. Vous en parlez avec nous au 32-16.
RMC, 9h midi. Les Grandes Gueules.